Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 10 du podcast Le Safety, votre podcast NFL de chez Dunk Hebdo. Avec moi pour m'accompagner, bon, pas de suspense dans cette émission, c'est toujours Alan. Comment ça va Alan du côté du Massachusetts?
Ça va bien, et à l'image de mon équipe, je suis un peu malade. Alors rassurez-vous, j'ai pas le Covid, hein, comme certains des joueurs, mais ça va, heureux d'être de retour dans cette période riche en sport.
C'est vrai, on a pris, alors je plaide coupable, c'est entièrement de ma faute si on a pris du retard. On avait, je pense que la plupart des auditeurs sont au courant, on vient de base, le premier amour c'est la NBA c'était les finales NBA, donc on avait un programme très chargé. Plutôt que de produire une émission de mauvaise qualité, j'ai préféré dire à mon compère Alan, on recule ça d'une semaine, et depuis, il s'est passé beaucoup de choses, donc on a peut-être eu, j'essaye de me créer un alibi, on a eu pas mal de choses à décortiquer, donc plutôt ce petit décalage, même si je sais que vous vouliez entendre le safety, il est plutôt pas mal. Parmi les choses dont on doit parler, forcément, bah, qu'est-ce qui se passe dans le Texas à l'heure actuelle, Alan, entre les Cowboys qui ont donc perdu Dak Prescott pour la saison, vraisemblablement, et les Texans qui ont enfin, on a envie de dire, qui se sont enfin débarrassés de Bill O'Brien. On va passer le début de notre podcast à parler du Texas, pardon. On va revenir aussi un peu sur les Browns, qui sont peut-être la bonne surprise de la saison. On va essayer de voir. On sait qu'il faut toujours se méfier avec les Browns. Et comme d'habitude, Alan, vous avez demandé à travers le compte, le safety, de nous poser quelques questions. On va y revenir en fin d'épisode. Si vous découvrez le podcast, le safety, on fait un podcast NFL en général toutes les deux semaines. Donc, on vous invite à vous abonner sur les plateformes où vous écoutez ce podcast, à laisser 5 étoiles si c'est sur Apple Podcast, et puis à nous suivre, bien sûr, sur Twitter. Nous, on marque une toute petite pause et puis on se retrouve pour discuter donc du Texas, cet univers impitoyable.
Donc c'est moi qui vais prendre un petit peu la trame en main. Ben, on en a parlé un peu tous les deux.
Je suis prêt.
C'est ça. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on s'était dit, après la semaine 4, il faut qu'on parle de Dallas et Houston, parce que Dallas venait de perdre contre les Browns, ils étaient à 1-3, et Houston venait de perdre à la maison contre Minnesota, ils étaient à 0-4. On s'est dit, bon, faut qu'on parle de ces deux équipes. Résultat, il s'est passé une semaine en plus. Dallas a gagné, mais a perdu Dak Prescott. Houston a gagné en virant Bill O'Brien contre les Jaguars qui, après la première victoire de la semaine, je pense, reviennent dans le rang, comme on en a pu en parler. Donc c'est intéressant parce que on doit toujours parler de ces deux équipes-là. Il y a eu des nouvelles choses, de nouveaux événements. Je pense que c'est bien peut-être qu'on commence par Dallas, donc qui a battu les Giants dans un match, un match de Dallas depuis le début d'année, franchement. Dans les 30 points, orgie offensive, on verra est-ce que c'est vraiment si positif que ça pour les Cowboys. La blessure de Dak Prescott, la question, le marronnier qui se fait en ce moment, est-ce que cette blessure, Ben, de Dak Prescott influe sur ou non sur son futur contrat, et comment elle influe sur la fin de saison des Cowboys?
Je vais parler des Cowboys en premier. Je pense, alors personnellement, elle influe pas parce que, je sais pas toi Alan, mais après les 4 premières semaines, je trouve qu'on commençait à avoir des réponses sur cette équipe des Cowboys, et ces réponses-là étaient pas forcément positives. On a vu, tu l'as dit, une équipe qui actuellement est capable de marquer beaucoup de points, mais qui défensivement pêche complètement. Je sais que tu l'as un peu dans le viseur, mais DeMarcus Lawrence, depuis la signature de son gros contrat, ne produit plus. On a souvent salué cette escouade de linebacker, mais on voit bien qu'en dehors, en défense, il y a pas grand chose. J'ai regardé les drafts récentes des GM du côté de Dallas.
De Jerry Jones, en fait.
Jones, quoi. De Jerry Jones, globalement. Et Jerry Jones a quand même, globalement, je trouve, peut-être un peu pas assez adressé son backfield défensif, et ça se voit maintenant, d'autant plus qu'on a perdu Byron Jones, parti du côté de Miami. Et là, je trouve que le backfield défensif, tout simplement, n'est plus bon. Le pass rush ne permet plus de le sauver, et une escouade de linebacker à elle toute seule ne fait pas assez. Donc, tout impressionnante que soit cette attaque des Cowboys, qu'il est, hein. C'est une grosse attaque. je pense que moi, après les 4 premières semaines, mes espoirs étaient redescendus. Donc, bien sûr que perdre un Dak Prescott qui est, tu vois, un super quarterback, ça change beaucoup de choses. Je sais même pas s'ils vont accrocher les playoffs. Mais de base, en fait, cette image des Cowboys comme potentielle équipe qui peut faire du bruit en playoffs, bah, pour moi, c'était mort avant la blessure de Prescott.
Ouais, moi, c'est un peu l'inverse. Je m'en veux, en fait, parce qu'on, dans l'épisode qu'on avait fait sur les contenders dans NFC possible, moi, j'avais parlé des Cowboys de Dallas, potentiellement. Comme pas mal de gens, je pense, qui pouvaient voir dans cette équipe, potentiellement une des troisième ou quatrième meilleures équipes de la conférence. Résultat est qu'en fait, la défense, elle ne permet pas à cette équipe-là de prétendre à cette position. En fait, la philosophie de Jerry Jones, moi, j'ai l'impression qu'il joue à Madden, en fait. Il voit assez tout par la draft. Il perd Byron Jones, il fait bronze para, je vais drafter un corner, donc Trevon Diggs. Il perd Malik Collins, le defensive tackle aux Raiders. Il dit, c'est pas grave, je vais drafter Neville Gallimore. Il perd Robert Quinn. Il dit, c'est pas grave, je vais signer Aldon Smith ou je vais drafter un pass rusher.
Ouais, cinquième tour, pass rusher. Voilà. Je suis devant leur draft, tu décris leur draft, c'est assez terrifiant. Ouais.
Tu vois, donc en gros, il doit tout défoncer à la draft s'il veut se permettre de survivre ou alors avoir peu de blessures. Et sur la saison actuelle, bah, il y a aucun des deux parce que, bon, ils ont un super corps de linebacker, mais Van Der Esch, il est blessé. Lee, il est blessé, mais il est tout le temps blessé, en fait, Sean Lee, depuis quelques années. Donc voilà. Aouzier, le corner, est blessé. Ça devait être le meilleur corner qui restait avec le départ de Byron Jones. Byron Jones qui montre encore que c'est pas parce que t'interceptes pas un camion de ballon que t'es pas un bon corner. Je pense que c'est un truc assez notable. Je pense qu'il fait de belles choses avec Miami quand il est sur le terrain. Donc là, on se retrouve avec un backfield défensif, comme tu l'as dit, où les deux starters au poste de safety, c'est Xavier Woods, pas le catcher, et Darian Thompson. Et les starters au poste de corner, c'est Daryl Worley, qui est un journeyman, Trevon Diggs, le rookie, et Jordan Lewis. Tu peux pas, en 2020 NFL, avoir ce genre d'escouade défensive.
Et par rapport à Trevon Diggs, je pense que on demande juste aux supporters des Vikings de confirmer le corner rookie de base, c'est pas une bonne idée.
Ouais, c'est ça. On et partout, hein, même des corners, même Jeff Okuda, il a du mal. Hein. Jeff Okuda, il a du mal. CJ Anderson, après deux premières belles semaines, on a vu qu'il a eu un baptême du feu compliqué contre Davante Parker et les Dolphins. Et c'est trop demander à des rookie corners d'être starter, voilà, en NFL aujourd'hui. Je pense que c'est un poste très très compliqué où il faut de l'expérience, il faut vraiment un temps d'adaptation vraiment différent entre le collège et la NFL. On voit qu'on leur demande beaucoup plus de prendre en presse des receveurs. Tout le monde a beaucoup d'équipes ont 2-3 très bons receveurs maintenant, et c'est compliqué. Donc en fait, Dallas, je trouve que c'est un peu comme Atlanta, on en reparlera en fin d'épisode. Pour moi, ils voient trop tout comme insérer des joueurs à la place de ceux qui perdent, plutôt que de se dire, bon, on va signer des joueurs en free agency, des quelques vétérans pour venir, on va aller chercher des joueurs sur des practice squads qu'on a identifiés. Eux, en fait, ils identifient à la draft, ils draftent et ils plug à la place. Sauf qu'en fait, pour moi, ça fonctionne pas tellement sur leur défense et ça se voit.
Totalement. Après, à voir si... Vu l'attaque super prolifique actuellement des Cowboys, qui scorent quand même sur presque 80% de ses drives offensifs. Hein. J'ai cherché la stat, ils sont troisième en NFL. Donc, avoir une équipe qui score beaucoup, en points par drive, ils sont à un peu moins de 3. Donc, en gros, ils mettent beaucoup de field goals, s'il faut comprendre. C'est qu'ils partent... La plupart du temps, ils vont partir avec des points. Mais le truc, c'est que ça aussi, ça amène... les équipes adverses dans des matchs d'attaque, on l'a vu contre les Browns, et le problème c'est que ça met d'autant plus de pression sur ton backfield défensif, en fait, parce que plus de passes, moins de courses, même si leur défense contre la course, globalement leur défense est à la rue. Enfin, la défense des Cowboys en a laissé combien? Ils en ont laissé 300 peut-être aux Browns, j'ai plus la stat.
Ouais, plus de 300.
Mais 2 yards au sol, c'était vraiment une catastrophe. Donc je suis assez d'accord avec toi. Après, je trouve que du coup on retombe un peu. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'on se voile la face avec cette équipe de Dallas où on se base toujours sur cette bonne ligne qui existe, Dak Prescott qui, je trouve, continuait saison après saison, match après match, à faire un peu taire ses critiques, où on voyait bien que c'était un franchise quarterback, il y avait toujours pas de contrat à la clé. Et pour répondre à ta deuxième question, alors certains ont clamé sur Twitter direct, ah, c'était le dernier match de Dak avec les Cowboys. Ça, on sait pas. On va déjà espérer une chose, c'est qu'il revienne de sa blessure, parce qu'elle est assez grave. Mais là, ça pose surtout un gros problème pour Dallas. J'ai envie de dire que dans leur malheur, ils avaient un bon backup. C'est ça qui est important.
Et une division pas bonne. Si on veut parler court-termiste.
Affreuse.
Voilà, court-termiste. C'est-à-dire que les Rams de Los Angeles ont joué les quatre équipes de la NFC East. Ils seraient en tête aujourd'hui. Ils ont autant de victoires que toute la conférence en a. Stats extrêmement drôle, je trouve. tu l'as dit, la ligne, elle est plus qu'elle était parce qu'il y a des blessures et il y a des joueurs qui vieillissent. Tyron Smith, il est sur l'IR, Lael Collins aussi, Joe Looney aussi, trois starters en moins, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire starter deux rookies, on change Zach Martin de position, enfin c'est un patchwork, la ligne offensive. Après moi, la question que je me posais sur l'attaque, je dis pas qu'elle est surcotée, je pense que les chiffres sont surgonflés par contre, parce qu'en fait, ils sont à moins 20 tout le temps en fait. Ils sont à moins 20 contre les Browns. Ils sont à moins 20 contre les Falcons. Ils sont dans un gros match d'attaque contre Seattle. Et contre les Giants, bon, c'est un peu plus serré. Ils reviennent dedans aussi parce qu'il y a des turnovers du côté des Giants. Mais en fait, ils jouent pas ce que des coachs appellent du football complémentaire. Pardon pour la traduction. Bon, en fait, je vois une attaque, voilà, qui partit en première mi-temps. Et qui est à moins 20. Et qui commence à partir sur de la passe en deuxième mi-temps et qui revient grâce à ça. Donc les chiffres, je pense, sont peut-être un peu surgonflés. Voilà.
Je comprends ce que j'avais un peu de mal à voir où t'allais m'amener et je comprends peut-être ce que tu veux dire avec la suite. C'est vrai que on a l'impression et c'est ça peut-être un changement qui est majeur dans cette équipe, c'est que de base l'année où notamment ils sont premiers de la conférence. La conférence nationale, c'était aussi en s'appuyant sur le sol et Zeke Elliott. Et
2016,
c'est vrai qu'on a ouais 2016. Et d'ailleurs, tu 2016, on est en 2020. Enfin, ça date un peu. Après, je trouve peut-être ton constat un peu dur parce que globalement, ils prennent pas de roost. Enfin, depuis le début de la saison. Alors, on peut considérer s'en prendre 49 à la maison par les Browns, on peut considérer que c'est pratiquement une roost. Mais autrement, même s'ils font souvent le match de derrière, ils reviennent globalement toujours à une possession, que ça soit pour perdre ou pour gagner. Donc, c'est sûr que il y a un retard à l'allumage, et moi j'ai tendance à dire que quand il y a un retard à l'allumage, faut peut-être regarder du côté du coaching staff, parce que tes premiers jeux sont scriptés, tout est scripté au début, si tu te fais tordre, et que, alors, c'est le paradoxe, c'est qu'il faut aussi donner du crédit du coaching staff pour s'adapter ensuite, mais si tu n'arrives pas à préparer ton équipe sur le début, ça peut poser problème. Après, tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de rookies dans cette équipe. Donc ça peut être lié à ça aussi, l'incapacité à rentrer dans les matchs. Et puis, dernière chose, Alan, je trouve que ils ont joué des bonnes attaques quand même depuis le début. Ils jouent des bonnes attaques.
Seattle, c'est une très bonne attaque. Ils ont joué les Rams dans un match où ils n'ont pas été ridicules le premier match de la saison. Les Rams sont à 4-1 et auraient pu être à 5-0. Ils ont joué Atlanta qui, bon... on en reparlera, reste une attaque dangereuse dans un bon jour.
Les Browns. Pendant trois quarts temps, en fait, ouais, ils sont dangereux.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Les Browns et les Giants, bon, les Giants, on en reparlera aussi, mais, l'attaque est compliquée, mais ils ont réussi à faire des trick plays et tout, donc c'était, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, le truc, c'est que voilà, est-ce qu'ils peuvent jouer avec, est-ce qu'ils peuvent, voilà, prendre le lead et un peu ralentir le jeu, être moins explosif peut-être par moment et garder la balle parce que leur défense moins elle est sur le terrain mieux c'est.
Ah, donc tu veux plus de jeux de course?
Non, peut-être pas parce que le jeu au sol, oui, c'est, je veux que la défense soit moins sur le terrain tout simplement.
Je vois ce que tu veux dire parce que plus elle est sur le terrain plus il y a de problèmes. C'est sûr, mais le problème, c'est que je trouve que dans ces drafts, Jerry Jones, ça penche quand même globalement beaucoup vers la passe.
Ah bah, tu drafts CeeDee Lamb premier tour alors que t'as déjà des gros receveurs. Après, ils ont été sur ce qu'ils pensaient être le meilleur joueur disponible, je pense. Donc ça, c'est un truc qu'on peut saluer aussi. Et c'est vrai que CeeDee Lamb fait une très belle, fait 5 très bons premiers matchs. Mais Zeke Elliott, je sais pas comment tu le trouves, et je trouve qu'il est vu différemment depuis qu'il a signé son contrat. Il est peut-être un petit peu plus problématique, la ligne est un peu moins bonne, mais c'est vrai. Les armes offensives sont énormes. Franchement, quand tu sors Cooper, Gallup, CeeDee Lamb, mais même contre Seattle, ils ont Wilson qui fait un match monumental. Ils font très très peur. Après, est-ce que avec Andy Dalton, ça va être un peu moins explosif, plus méthodique, parce que Dak est un QB très méthodique aussi, mais peut-être moins explosif, donc des drives plus longs, et donc la défense sera moins sur le terrain. Moi, c'est quelque chose que je pense, quand t'as une défense aussi mauvaise, moins elle est sur le terrain, mieux c'est, parce qu'elle est plus fraîche, le pass rush fait un peu plus haut niveau, et puis, elle a moins de chances de se faire défoncer sur un jeu, parce que c'est ce qui se passe des fois, ils prennent une tonne de big play.
Mais tu veux une stat, Alan? Je comptais la garder à un moment pour faire la transition entre les deux sujets, mais les deux équipes qui ont le plus petit temps de possession actuellement en NFL, Dallas et Houston.
Et Houston, c'est pareil, on en parlera. Moi, je veux que leur défense soit le moins possible sur le terrain.
Après, tu vois, dans les deux cas, je trouve... Le cas Houston est différent. Parce qu'en fait, le cas Houston, je vois même pas, en fait, ton intérêt à court. Il faudrait peut-être faire plus de jeux pour des gars... En fait, pour moi, tu peux pas privilégier, vu l'attaque de Houston, comment elle est construite, tu peux pas privilégier le sol. En fait, c'est quand t'as Deshaun Watson, tu privilégies pas le sol. Après, c'est sûr que je pense que parfois, tu vois, on en parle, mais c'est malheureux, mais la perte d'un quarterback, parfois, bah, ça va forcer l'équipe à changer sa façon de jouer. Et comme tu l'as dit, peut-être qu'avec un Andy Dalton où il y aura moins de jeux explosifs. Tu disais peut-être, pour moi c'est une certitude. Avec Andy Dalton, je l'ai vu jouer. Il y a moins de jeux explosifs. On va peut-être avoir une attaque qui va rester plus souvent sur le terrain, parce que globalement, je vous fais pas de dessin. Quand tu te classes très bas dans cette stat du temps de possession, tu gagnes pas beaucoup de matchs, parce que ta défense peut pas défendre pendant 35 minutes à un haut niveau. Après, pour un peu finir avec ce sujet Dallas, moi je trouve vraiment que Dallas, c'est un château de cartes un peu qui s'écroule. Et ce qu'on voit cette année, c'est en fait le résultat de ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Et maintenant, c'est quoi le secret pour Dallas? C'est de retrouver sa formule d'avant. Il faut réinvestir dans les lignes, il va falloir drafter des corners, il va falloir peut-être investir dans des free agency. Et quand je dis investir, c'est pas prendre des mecs sortis du camion à la Aldon Smith, même si Aldon Smith fait un bon retour. C'est peut-être investir dans des joueurs peut-être un peu moins... clinquant, mais des bons starters NFL, et peut-être pas tout basé sur la draft.
Complètement. Des joueurs, pas forcément des joueurs qui sont les mieux payés à leur position, mais des joueurs solides. Voilà, des joueurs calibre NFL starter, voilà. Ce que y a pas dans...
Ils en ont combien dans leur défense, par exemple?
Leur défense, s'ils sont là, Van Der Esch et Jalen Smith, je pense.
Demarcus
Lawrence y est. Skeverson Griffin, il est toujours, je sais. Il l'utilise comme pass rusher de rotation maintenant. Et dans le backfield défensif, Anthony Brown est un slot correct. Voilà.
Tu peux pas faire une défense NFL avec 5 mecs au niveau au-dessus de la moyenne à leur poste.
Ouais.
Tu vois, c'est pas possible. Donc surtout quand on a si peu sur la ligne défensive. Enfin, on a une question, on en reviendra, mais sur les défenses, je parle en connaissance de cause, c'est très difficile d'être une bonne défense sur la longueur quand t'apportes peu de pression, en fait.
Faut avoir 5-6 mecs sur la ligne défensive. Pas forcément que des pro bowlers, et ça existe pas, mais des bons joueurs de NFL, des bons joueurs de rotation. Eux, ils ont des rookies des mecs qu'ils ont drafté assez haut qui seraient être peut-être des déceptions. Ils laissent partir, voilà, c'est tout, c'est bête, mais ils laissent partir, voilà, Malik Collins, Kerry Hyder, c'était des mecs bons, en fait, c'était des mecs solides de leur défense.
Mais en fait, Dallas, ils laissent toujours partir les mecs, ils re-signent souvent, tu l'as dit, t'as parlé du meilleur joueur le plus payé à leur position, c'est souvent un peu le alors je dirais, pour conclure, je pense que Jerry Jones, il a la philosophie du home run. Ouais. Il tente des home runs à la draft, et je maîtrise pas du tout le baseball, mais il se contente pas d'un petit coup. Il faut qu'il fasse un home run. Ouais.
Ah ouais, c'est ça. Mais ça veut pas dire que tu peux accepter d'avoir Darian Thompson et Xavier Woods en starter de ta paire de safety.
Non, 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 c'est pas. Surtout que les safety du côté de Dallas, ça fait quand même pas mal
longtemps
de temps.
Longtemps que c'est pas exceptionnel. Moi, c'était Barry Church, je crois, le dernier safety solide que je me rappelle.
Mais moi, de toute ma vie, entre guillemets, de fan NFL, j'ai pas souvenir de bon duo de safety du côté de...
Non, non.
Je regarde pas la NFL depuis 45 ans, hein, mais c'est, ça fait quand même
pareil,
quelques
ouais.
années. Donc,
ouais, quand il sortait Jeff Heath, mon ami.
Oui, c'est compliqué. Donc, c'est un peu comme les running jokes et la ligne offensive de Seattle, même si on y reviendra, ça change peut-être un peu. Tu vois, au bout d'un moment, t'es obligé d'adresser ça. Même si, on l'a dit encore une fois, Jerry Jones tente de l'adresser, mais je me faisais cette réflexion-là en analysant leur draft. La dernière fois qu'ils sélectionnent un safety dans les trois premiers tours, je crois que ça a plus de 10 ans. Ils sélectionnent aucun safety dans les trois premiers tours, donc forcément t'as ce genre de résultat là. Byron Jones, faut te souvenir qu'on avait essayé de le mettre en safety, enfin tu vois, c'est compliqué, donc
ouais, c'était un hybride un peu, ouais. Et il s'est révélé que c'était un top corner, et ça, franchement, sa perte se fait sentir, sa perte se fait clairement sentir. Après, moi je pense quand même qu'ils peuvent gagner la division, parce que la division est horrible. Après, gagner la division, pourquoi, ça veut dire quoi? Tu vas terminer quatrième, t'auras l'avantage du terrain dans le match-up contre la cinquième équipe qui se révélera être peut-être les Rams, peut-être les Bears, les Bucks ou les Saints, et tu perdras ce match, je pense. Donc
que des équipes meilleures que toi.
Ouais.
Ouais, non, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je remontais ça, Alan. Alors, à vérifier la stat avec... Je l'avais noté, je l'avais cherché avant l'émission. Ils ont drafté aucun safety dans les trois premiers tours au 21... Non, dans les deux premiers tours au 21e siècle. Si je regarde bien, tu vois. Donc, ça, c'est comme un peu les linebackers aux Giants. C'est un moment où c'est une stratégie de front office et il faut peut-être les changer.
C'est ça. Moi, je te dis, je pense que ça doit être Barry Church, le meilleur safety que j'ai de mémoire, qui a joué... aux Cowboys. Après, ça se trouve, j'ai un trou et tout ça, hein. Mais même les années avec Tony Romo, avec DeMarco Murray et tout ça, j'ai pas de souvenir de qu'ils avaient des super bons joueurs à ce poste-là. Donc mais ils avaient peut-être un meilleur pass rush et plusieurs corners qui pouvaient jouer en NFL. Voilà, c'est assez problématique. Franchement, c'est assez problématique. Bill O'Brien s'est fait virer, Ben.
Enfin.
Oui, c'est quelque chose que tu attendais. On fait la transition entre Dallas et Houston. Bill O'Brien. Est-ce que Bill O'Brien qui monte encore une fois que la double casquette coach GM, que ce soit en NBA ou en NFL d'ailleurs,
est assez
compliqué à gérer. Quand tu t'appelles pas Bill Belichick, en fait, voilà. Donc il part avec un record de 52 victoires, 48 défaites, 4 titres de division en 6 ans. Il a été monté à draft pour chercher son franchise QB de Sean Watson, ils l'ont. Mais voilà, pléthore de mauvaises décisions contractuelles et de personnel hors terrain qui lui a coûté sa place. Après voilà, après la défaite contre Minnesota où ça les mettait à 0-4 sur la saison. Est-ce que t'as été surpris que ça soit après seulement 4 matchs de saison régulière ou pas?
Oui, parce que virer quelqu'un qui a la double casquette, c'est toujours plus dur. Parce qu'en fait, c'est comme si tu vires les deux personnes les plus importantes de ton front office en dehors du propriétaire, même si tu peux l'inclure pas forcément dans le front office. Donc oui, je suis assez surpris. Après, avec le recul, je pense que, à part peut-être les Texans et leurs propriétaires jusqu'à très récemment, tout le monde voulait que ça se passe comme ça. Le problème, on aura le temps d'y revenir, c'est que Bill O'Brien a eu le temps de faire assez de dégâts.
Ouais.
Mais surpris, ouais, quand même surpris du timing, parce que moi, je me disais qu'ils allaient partir jusqu'au moins la fin de cette saison, parce que quand tu vires quelqu'un, encore une fois, parce que c'est vraiment très important de parler à cette double casquette, tu te dis toujours, c'est laquelle des deux casquettes qui est virée. Parce que, concrètement, quand tu donnes les deux casquettes à quelqu'un, même si c'était un coach de base, tu peux pas le rétrograder et lui retirer la casquette de GM, le remettre coach. C'est pas possible. Donc, moi, je suis en train de me dire qu'ils ont viré le coach O'Brien. Et qui,
ah ouais?
Et que par, du coup, bah, par conséquence, ils ont viré le GM O'Brien, alors que, paradoxalement, ils auraient dû virer le GM O'Brien il y a bien longtemps.
Complètement. Ils ont viré le coach O'Brien qui démarre 0-4.
Mm.
Alors que, ils doivent virer le, alors que le coach O'Brien, pour moi, est un coach solide NFL. Ouais, je pense que je suis peut-être dans une minorité à penser ça, mais.
Non, je suis assez d'accord avec ça, ouais.
Je suis peut-être dans une minorité, mais je pense que c'est un solide coach NFL. Par contre, le décisionnaire des opérations foot, Bill O'Brien, à part monter à la draft pour chercher Deshaun Watson, je vois très peu de bonnes décisions. Et j'ai un peu récapitulé, si tu veux, toutes les décisions.
Ça va être grandiose.
On peut en parler, si tu veux, hein. Mais on peut commencer déjà avec quelque chose qui les a vraiment mis dans la mouise pour les drafts 2017-2018. C'est le contrat de Brock Osweiler. Et oui. Parce qu'après, pour t'en débarrasser, ils l'ont filé à Cleveland en disant, on vous donne Osweiler et son contrat, mais ils ont donné 4-5 picks en plus. 3-4 picks. Après, ils ont privilégié des joueurs plutôt que d'autres sur des échanges. C'est-à-dire que bah tu te sépares de Jadeveon Clowney, alors que peut-être que t'aurais peut-être pu voir que c'était peut-être J.J. Watt ou Whitney Mercellus qui était sur la partie plus délicate de leur carrière. Ton préféré, l'échange de DeAndre Hopkins pour David Johnson et un
le
second tour de draft.
Le sponsor du podcast, DeAndre Hopkins.
Ouais. Et un second tour de draft que tu pourrais investir pour aider un peu ton équipe, que t'échanges contre Brandin Cooks. Ensuite, t'envoies la maison sur la Remy Tunsil, un peu avant, qui a fait une bonne saison l'année passée. Je trouve sur les 5 premiers matchs qu'il est tout simplement pas bon, en fait. La Remy Tunsil, donc c'est un peu problématique. Et après, voilà, des choix difficiles. Je comprends pas pourquoi tu vas payer un mec comme Randall Cobb, par exemple. Pourquoi tu t'investis au lieu d'aller chercher beaucoup de receveurs, tu ne remplaces pas des éléments importants de ta défense qui partent année après année comme Kareem Jackson, comme DJ Reader, AJ Bouye, c'était un peu compliqué, il est parti pour beaucoup d'argent, mais en fait tu ne remplaces pas ces gars-là. Le seul gars que t'as vraiment payé pour le remplacer, c'est Bradley Roby en tant que corner. Mm-hmm. Et après c'est des drafts ratés depuis 2014 où ils sortent Clowney. Mais ils draftent un Kevin Johnson au premier tour. Ils sortent les deux bons linebackers, McKinney et Cunningham. Et après, voilà, 2018, 2010, 2017, 2019, ils ont très peu de choix dans les premiers tours et ça marche pas. C'est une catastrophe, ce qui est en termes d'opération football.
Alors, difficile d'enchaîner après ça.
Excusez-moi.
Non, mais globalement, je suis assez d'accord. Il y a un YouTuber assez connu qui s'appelle Brent Coleman, qui est assez connu pour ses analyses vidéo NFL, qui est le pauvre, personne n'est parfait, fan des Texans, et qui, lui, dans une de ses vidéos après la chute de Bill O'Brien, expliquait que, selon lui, le moment où ça a déraillé, je trouve ça assez intéressant, c'est le trade de Dwayne Brown en 2017.
Seattle,
ouais. Ouais, où il explique qu'en gros, tu as Deshaun Watson dans sa saison rookie. Deshaun Watson dans sa saison rookie fait un très bon début de saison rookie. Dwayne Brown est en hold out parce qu'il veut un nouveau contrat. Le problème, c'est qu'on l'échange, on lui donne pas son nouveau contrat, et ensuite on se rend compte de quoi côté Texan. Ah oui, Deshaun Watson, ça fait 2 ans qu'il est en NFL, 2 ans qu'il se fait découper. Il faut qu'on lui offre une ligne. On va donc chercher Laremy Tunsil où on envoie la maison, comme tu l'as dit. Le problème, c'est que quand on envoie la maison pour un joueur et qu'il doit renégocier son contrat à court terme, il a tout le loisir qu'il veut. Il sait parfaitement que t'es obligé de le re-signer. Donc Laremy Tunsil a demandé un contrat gigantesque, qui, d'ailleurs, je ne le remercie pas, me fait peur pour Ronin Stanley, le tackle.
T'es perdant sur les deux trucs. Tu perds de la flexibilité financière et tu perds des picks.
En plus, et c'est là qui était terrible, sur les snaps pris par Dwayne Brown et sur Laremy Tunsil depuis l'année dernière, je crois, ou depuis 2018, il avait montré cette stat, leur pourcentage de pression accordé est le même. Mm. Alors, les équipes sont différentes, mais en gros, c'est-à-dire que tu as lâché un joueur qui a 32, qui avait 32 ans à l'époque, mais c'est, on sait que les tackles peuvent jouer tard, on le voit du côté des Rams notamment. Tu as lâché ça contre un joueur certes plus jeune, mais au rendement, au même rendement, plus cher, et pour perdre des assets de draft. Enfin, c'est, c'est une catastrophe, ça. Et ensuite, pour le reste, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, le titre de sa vidéo, c'était « Comment l'ego d'un homme a détruit une franchise ?» Et franchement, je trouve pas meilleure conclusion. Comment tu peux croire que... alors, Deshaun Watson a un excellent quarterback, mais comment tu peux croire que tu peux réussir à remplacer la production d'DeAndre Hopkins, honnêtement?
Ouais, ça, c'est... Je suis vraiment d'accord. Après, voilà, si on parle plus terrain... J'ai pas compris, voilà, en fait, ce qu'il voulait mettre en place, voilà, pour la saison 2020. Parce qu'en fait, il a gagné 4 fois la division en 6 ans. Et depuis 2 ans, il a gagné avec Deshaun Watson, DeAndre Hopkins, une défense un peu moins bonne, JJ Watt qui était souvent blessé. Mais ça mettait des points et ça allait en playoff. Là, il a voulu se faire une équipe de 4 fois 100 mètres, en fait, avec ses receveurs. Parce qu'en fait, ta ligne, bah, t'as Fuller, d'ailleurs, qui est tout le temps blessé, hein. J'aime beaucoup Will Fuller, mais il est tout le temps blessé. Brandin Cooks, Kenny Stills et Randall Cobb. Donc, je pense que la volonté, c'était, voilà, aller sur des gros jeux, de la deep pass. Quelque chose que Watson est assez bon pour. Franchement, il est très bon sur les longues passes. Mais avec, en fait, bah, de ce que j'ai vu, moi, des 5 premiers matchs, peu de variance, des schémas pas hyper recherchés. J'étais vraiment super déçu, en fait. Je me suis dit, franchement, on va voir que des choses assez différentes. Peut-être des passes écrans pour receveurs, peut-être des end-around, de mettre des joueurs en mouvement. Et en fait, non, c'est juste, j'ai l'impression, on envoie des mecs loin et on attend de voir. Et je suis assez déçu, en fait, moi, sur ça. Parce que le dessinateur de jeu, Bill O'Brien, offensivement, moi, il m'a jamais embêté. Il était au Patriots avant et ça s'était bien passé avec Watson, Hopkins, tout ça, je trouve que ça se passait plutôt bien, en fait.
Après, déjà, je pense que de base, c'est pas un dessinateur de jeu génial. Il est solide sans être génial. Et le problème, c'est d'où l'idée d'ego. Alors là, c'est, je pompe pas toute sa vidéo. Là, c'est une idée de moi. Je trouve qu'en fait, il se voit comme génial. Donc, il croit qu'il est capable de produire avec des éléments qui sont un peu compliqués. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que son corps de receveur actuellement, quand il est en goal line, il peut rien faire.
Souvent Daniel Jeremiah, il parle, tu sais, de créer une équipe de basket pour les receveurs, donc avoir plusieurs profils.
Ah, c'est small ball de D'Antoni, tu vois.
Ah, c'est compliqué, hein.
Ça, il y a rien à faire. Enfin, Brandin Cooks, Will Fuller, Randall, tu peux pas produire, en fait, quand t'es en goal line. Et j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les Texans ont pas investi vraiment dans un tight end. Enfin, pour moi, quand t'es un jeune quarterback, tu dois investir tout ce que t'as dans un tight end. Alors, je prêche pas la parole Baltimore, je dis juste que regardez bien, il y a quand même souvent un rapport de réussite quand t'as un bon tight end. Enfin, c'est très important pour un jeune joueur, ça lui fera sa soupape de sécurité. C'est qui la soupape de sécurité à l'heure actuelle de Deshaun Watson?
Bah, c'était Hopkins.
Mais là, cette année, il y en a pas?
Non, il y en a pas. Et tu vois, en 2018 et 2019, ils draftent à chaque fois un tight end au troisième tour. Alors, est-ce que troisième tour, c'est un gros investissement? Non, mais c'est quand même un investissement. Sauf que c'est pas des joueurs qui marchent très bien. C'est Jordan Akins et Waring, qui est même plus dans le roster, je crois. Donc, c'est aussi des manquements à la draft, quoi. Des manquements à la draft. C'est une suite de manquements, en fait. Suite de manquements qui se répercutent sur le terrain, et avec un Deshaun Watson qui... Alors, je trouve qu'il a joué des bonnes équipes sur les 5 premiers matchs, d'accord? Mais je trouve que, tu vois, je le trouve un peu moins tranchant avec ses jambes, peut-être plus puissant sur le haut du corps, et donc je pense que c'est pour peut-être absorber les chocs, et donc je trouve peut-être moins tranchant au sol. Et ouais, il lui manque la soupape de sécurité qui était Hopkins. Je pense que pas mal de gens avaient peut-être sous-coté ça, et il est un peu moins bon sur le début de saison.
Ouais, totalement. En fait, je trouve que on lui facilite pas la tâche, tu vois. J'ai peur, tu vois. On parle beaucoup de Watson, ce qu'il faut. Il faut être honnête. Alan adore Deshaun Watson. Ouais. Je trouve que il commence à avoir de vraies mauvaises habitudes. On avait souvent le débat comme quoi il gardait trop souvent la balle, etc. Et son corps de receveur l'amène pas à la lâcher plus vite. Parce que c'est il clair. Y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de temps pour que l'action se développe. Et là, c'est là où c'est le paradoxe des Texans à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont besoin de joueurs pour que l'action se développe, et ils ont pas la ligne qui pourrait leur permettre vraiment que l'action se développe.
C'est
donc
clair.
Donc là, t'arrives à un moment où on se retrouve sur du Deshaun Watson qui doit faire des exploits, et c'est pas bon parce que déjà, ça crée beaucoup plus de, ça crée beaucoup plus d'erreurs, et puis physiquement, ça va être un problème. Tu vois, tu parles beaucoup de la draft, et c'est vrai. Je regardais depuis la draft de Deshaun Watson, donc on est en 2017, il y a eu 3 drafts qui se sont passés côté Texan. On a drafté que 2 receveurs. Un au quatrième tour, Keke Kuti en 2018, et un en 2020, qui a encore rien produit en 2020. Donc, et qui d'ailleurs, je crois, n'est même plus dans l'équipe. Je crois qu'il a été coupé d'ailleurs, à vérifier. Hein. Isaiah Coulter a vérifié. Tu peux pas, en fait. Il faut, enfin, le modèle devient presque caricatural, mais c'est à peu près le bon. On voit ce qu'il faut faire actuellement. T'as un jeune QB dans son contrat rookie, hein, même un jeune QB, tu blindes autour de lui. Et je trouve que côté Texan, ça a pas été fait. Enfin, c'est une déception. Et c'est là où, enfin, tu as commencé en parlant de ça, mais jamais donner cette double casquette à quelqu'un. Enfin, vraiment.
Non, franchement, c'est vraiment super, super compliqué, cette double casquette là. On va rentrer dans la période. Celui qui va prendre le job va être dans la période compliquée, parce que je rappelle que les premier et deuxième tours de la draft 2021 de Houston vont à Miami. Là, Miami, c'est exceptionnel. Donc Deshaun Watson va rentrer dans son extension. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre une part beaucoup plus importante dans le cap, ça va être compliqué de renforcer l'équipe, et moi je pense qu'on va peut-être passer sur la défense, mais la défense des Texans, je pense que c'est l'une des plus lentes de la NFL dans ce que je vois. Il y a un vieillissement de joueurs clés, donc JJ Watt, Whitney Mercilus, je pense que c'est les deux. Le backfield défensif, quand tu t'appelles pas les Patriots ou d'autres top franchise et que tu te mets à relancer des paris de draft ratés genre Garyon Conley et Vernon Hargreaves, pour moi c'est toujours assez problématique.
Qui sont petits d'ailleurs, il y a une obsession chez Bill O'Brien pour les joueurs undersized.
Petit rapide, ouais.
C'est assez fascinant, je me fais la réflexion là en ce moment, mais...
Tu vois, ils ont fait des petits ajouts à la Free Agency avec des journeymen comme... Mais tu vois, franchement c'est compliqué, je trouve, de starter Eric Murray et Philip Gaines dans tes DB, quoi. C'est vraiment compliqué. Et l'investissement fort qui avait été fait en termes de dollars sur Bradley Roby, je trouve qu'il est pas,
il est, non, pas, il est pas récompensé pour le point.
Non.
Ils sont toujours parmi de la perte de Kareem Jackson, en fait. Qui était à l'époque, on s'en moquait un peu, on disait un corner moyen, mais ils ont toujours pas trouvé de remplaçant. Et de base, à l'époque, ils avaient déjà personne à l'opposé.
Oui, c'est parce qu'ils avaient perdu Bouillet aussi, aux Jaguars.
Ouais, donc, non, je suis assez d'accord avec toi, c'est compliqué. Et puis, je trouve qu'il y a eu un... Tu parlais un peu de, voilà, on perd quelque chose, du côté des Cowboys, on perd un joueur, on essaie de le remplacer à la draft. Je trouve que dans les investissements aussi à la draft de Bill O'Brien, il y a une exception. Il y a une... Enfin, ils ont sélectionné un tackle tous les ans dans les 4 premiers tours depuis l'arrivée de Deshaun Watson. C'est incroyable, tu vois. Enfin, on a l'impression d'être un peu comme à Seattle quand ils testaient tackle. Sauf qu'ils investissaient pas de si fort choix de draft dans les tackles. Enfin, il y a un moment où aussi, à force de trop adresser une partie de ton équipe et une escouade, tu vas perdre sur d'autres. Et je suis totalement d'accord avec toi. Il y a tout simplement, au bout d'un moment, tu vois, on peut parler tant qu'on veut. Si tu draftes personne, tu réussiras pas. Enfin,
ou alors
faut que t'aies un coaching staff incroyable qui ait réussi à faire produire tout le monde. Mais ça, à part les Patriots, c'est quelques autres rares équipes qui se comptent sur les doigts d'une main. T'en as pas. Enfin, donc.
C'est clair. Nous a posé une question, Ben. El Comoriano. Parce que là, on va un peu parler du futur, quand même. Quel coach prendriez-vous si vous étiez GM des Texans? Perso, je choisis entre Eric Bieniemy, donc le coordinateur offensif des Chiefs de Kansas City.
Que tout le monde veut.
Ouais. Ou Brian Daboll, le coordinateur offensif des Bills de Buffalo.
Alors moi, tu sais, Alan, j'ai une règle en NFL, en NBA, que j'applique un peu à NFL, parce qu'on va avoir des noms après qui étaient à une époque des assistants qui étaient en poupe, et le vent en poupe, on a vu que parfois ça marche un peu moins. Je retournerai la question de l'auditeur et je demanderai plutôt. Pour moi, c'est plus important le GM que le coach à l'heure actuelle. Le GM est beaucoup plus important que le coach parce ouais. qu'il faut reconstruire l'effectif.
On il va falloir aller trouver des bons joueurs plus tard dans la draft et ça.
C'est ça. On n'est pas sur un et c'est ça qui est terrible quand t'as un jeune quarterback du niveau de Deshaun Watson. On n'est pas sur une situation où le coach était mauvais. Tu fais 2-3 ajustements. En gros, c'est pas les Browns de l'année dernière. C'est pas les Browns de l'année dernière où 2-3 bons choix à la draft, une bonne free agency et c'est reparti. Je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus entre guillemets graves dans cette équipe, donc le GM en premier. Après, si on doit parler de style de coach, oui, je pense qu'il faut quelqu'un qui facilite la vie de Deshaun Watson tout simplement. Est-ce que c'est Bienemi? Peut-être, mais tout le monde le veut. Donc je pense que ouais. il aura l'embarras du choix à voir. Mais il faut quelqu'un oui qui facilite la vie de Deshaun Watson.
Ouais, Bienemi. Bienemi. En plus, il a la pub pour lui de pas avoir été pris sur les jobs de 2020 pardon, où il aurait pu prétendre et on se dit bon, putain, Joe Judge a été pris devant lui. Il avait aussi candidaté pour le poste de head coach de sa fac Colorado qu'il a pas eu. Alors ça c'est certains pensent même qu'il s'est retiré parce qu'il sait qu'il va avoir hein, quelque chose en NFL. Franchement, je pense que Eric Bieniemy sera head coach en 2021 en NFL, genre c'est sûr, c'est sûr. Moi je pense que c'est quelqu'un que je pourrais cibler. Du côté des Texans, mais comme tu l'as dit, il va falloir rebâtir la défense. Et en fait, il va falloir être inventif. Et ça va être très compliqué pour eux. Inventif, faire des coups à la free agency, sur des petits contrats, faire des coups en relançant des vétérans et faire des coups à la draft. En fait, quand on te demande de faire des coups.
C'est pas bon signe.
Voilà, tu vois. C'est que c'est vraiment pas bon signe.
Surtout que c'est important, tu l'as fait, insister sur la défense. Parce que quand t'as un mec du talent de Deshaun Watson, je pense que offensivement, tu peux te débrouiller plus facilement. Offensivement, tu peux te débrouiller plus facilement parce que tu lui trouves la ligne, il n'y a pas besoin d'être élite, il faut lui trouver 2-3 receveurs compétents et tu peux avoir une attaque bonne. Là où la défense, JJ Watt revient à un bon niveau mais il vieillit, derrière il n'y a pas de talent vraiment élite. Donc là ça prend du temps, surtout qu'on voit dans cette saison un peu particulière, il y a très peu de bonnes défenses en fait cette année. Hein. Il y a très peu, tout le monde galère à défendre, donc à voir côté Texan. Ce qui est sûr, c'est que là où c'est terrible pour eux, c'est que pour moi, je pense que t'es d'accord, pas de playoff cette année, et ils ont même pas leur choix, comme tu l'as dit, donc ça c'est affreux.
Ouais. Du premier ni de deuxième tour, enfin, c'est super compliqué. Ouais, j'allais te poser la question pour finir, Dallas-Houston, est-ce que les deux équipes feront les playoffs, ne feront pas les playoffs?
Houston sûr.
Vas-y, je t'en prie.
Je dirais Houston sûr, Dallas, les Eagles sont pas bons, hein. On en parlait, les Eagles sont pas bons, derrière, pardon, Washington, c'est pas bon, Washington et les Giants, c'est, et pourtant il y a rien, mais sur l'impression, je pense qu'ils sont pas dans la course. Je te dirais que les Cowboys peuvent y aller. Houston, c'est mort, les Cowboys peuvent y aller.
Ouais, pareil. Je pense que Dallas peut y aller sur une fin de saison au couteau tiré, un 8-8 ou 7-9 des familles, est-ce qu'elle est fait en playoff? Houston,
je pense qu'ils peuvent aller jusqu'à 8-8, 7-9.
Ouais, je pense.
À côté, ouais, leur division.
Ils vont encore jouer trois fois Washington et une fois deux fois Washington, une fois les Giants, ça peut faire 3 victoires, ils arrivent à 5 victoires déjà.
Mais tu vois, sur le papier, est-ce que Washington, c'est pas le pire match-up pour eux, possiblement?
Si, mais...
Ouais, ils sont censés les battre.
Ils doivent les battre, je pense. Ouais. Franchement, ils doivent les battre. Et du côté de Houston, je pense qu'ils vont faire une saison type Falcons depuis 2 ans. C'est-à-dire, ils vont être chiants à jouer sur la fin de saison, ils vont gagner 6-7 matchs. Et voilà. Et je pense que... Et peut-être chiants à jouer sur la fin de saison, mais ça ira pas en playoff. Malheureusement. Oh, je pense qu'on a fait le tour de cet état du Texas en lambeaux.
Ouais.
c'est assez compliqué, Ben. On va se retrouver après après l'interlude musical. J'adore dire ce mot maintenant.
Interlude, tu le dis dans toutes les émissions. Interlude.
Exactement. Pour répondre aux questions des auditeurs. J'ai essayé un peu de classer les questions, Ben. Je les ai envoyés.
Bravo.
J'ai essayé de faire quelque chose de peut-être de logique. On aura une partie spéciale NFC Nord. Incroyable. Première question de Ticro, fidèle auditeur. Vous êtes GM d'une franchise et vous avez un jeune QB très talentueux. Quelle est votre priorité dans la construction de l'effectif? Et il nous propose soit la ligne offensive. Enfin, c'est un peu le débat, quoi. La ligne offensive pour le protéger ou des receveurs, en gros, des armes, des playmakers pour voilà, lui faciliter la tâche, en gros.
Honnêtement, je pense qu'on peut deviner ma réponse après ce que j'ai dit sur les Texans. La ligne offensive. Parce que si tu pars du principe que le reste des escouades et le coaching staff sera moyen, si t'as une bonne ligne, tu réussiras à faire quelque chose. On le voit cette année encore, et ça va pas faire plaisir aux fans des Eagles, il y a encore un camion de jeunes receveurs rookies qui est en train de se révéler. Tu peux trouver des receveurs, je pense, c'est le poste le plus facile à trouver, peut-être avec running back, bien sûr. Là où trouver une bonne O-line, enfin si tu essayes de construire une bonne O-line, c'est très difficile. Et là encore, je continue sur ce que j'ai pu dire sur les défenses, il y a très peu de bonnes O-line cette année, je trouve, en NFL. Donc, on protège le quarterback, quitte à lui prendre des receveurs un peu surpayés, comme ce que peut faire Arizona avec un DeAndre Hopkins. Je dis surpayé, je dis plutôt avec des gros contrats, ça serait plus correct. Non, il faut blinder la O-line, c'est évident.
Pareil, ouais. Et souvent, dans ce débat-là, il y a des mauvais arguments qui sont mis en place, genre, ouais, les Browns avaient une super ligne. Ouais, mais les Browns, ils avaient pas de QB, en fait. Dans la question, il y a un jeune QB très talentueux. Je crois pas que ce joueur-là était du côté de Cleveland quand ils avaient leur super ligne avec Joe Thomas et compagnie. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut investir sur la ligne. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit cette année que Cincinnati a un peu fait l'inverse, en fait. Ils ont investi sur les playmakers. Ils ont drafté T. Higgins au deuxième tour. Il y a Jay Green qui est toujours là. Tyler Boyd, on lui a donné de l'argent. Joe Mixon aussi a été grassement payé. Et il a une ligne qui est en passe de lui faire prendre 70 sacks sur la saison. Ton équipe a failli le tuer dimanche dernier. Mm. Ce pauvre Joe Burrow. Donc je pense que c'est compliqué. Moi, j'aime bien ce qui se fait du côté de Miami. C'est-à-dire, on a drafté Tua. On a drafté des mecs de ligne qu'on développe. On met pas Tua encore sous le feu de la rampe. Et puis on attend qu'il a la bonne ligne et puis on ira chercher les playmakers ensuite.
Ouais, surtout que pour voir un peu ce qui peut se passer du côté de New York, c'est très néfaste d'imposer à un jeune quarterback beaucoup de pression, je pense, au début. D'où l'importance de lui mettre une bonne O-line. Le seul contre-argument qu'on pourrait nous donner, c'est que tu peux te rater sur la O-line parce que c'est quand même 5 gugus. Souvent les tackles sont très recherchés, donc vont partir haut à la draft. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui va prendre plus de temps. Limite, il faudrait que t'aies ta O-line avant de drafter le quarterback. Ça serait l'idéal. Parce qu'on peut voir que ce que font les Bengals, il a beau avoir tous les receveurs qu'il veut, Joe Burrow, ça se voit sur le match contre les Ravens et sur ses autres matchs, il a pas le temps de lancer.
Comme Denver avec Drew Lock, hein, sur les premiers matchs. Ouais. Y a des gros investissements qui ont été faits pour lui fournir des playmakers. Au premier tour, on a drafté un tight end dans un premier tour, un receveur l'année d'après, des receveurs au deuxième et troisième tour. Mais la ligne est un peu compliquée. Il s'est blessé, donc c'est pas tout bien voir. Mais c'est compliqué. Moi, je pars plus sur la ligne d'abord, juste pour pas faire perdre confiance peut-être aux joueurs. Et d'ailleurs, on voit dernier exemple que franchement, Justin Herbert s'en sort pas si mal que ça, avec des playmakers pas exceptionnels non plus. Enfin, je le vois lancer à des mecs non draftés, parce que Keenan Allen est un peu blessé, Hunter Henry aussi, Mike Williams a raté des matchs, et il s'en sort. Donc, on peut s'en sortir si on est bien protégé. Je dis pas que la ligne des Chargers est bonne, je ne dis pas ça, surtout pas.
Après, même s'ils sont un peu blessés, les playmakers de Justin Herbert, quand ils sont sur le terrain, c'est des mecs d'une stature qui font que ils font limite plus peur que ceux des Bengals, je pense. Tu vois, à titre de comparaison. Donc ils ouvrent des espaces. Mais oui, totalement. Tu peux trop trouver des playmakers offensifs. C'est plus simple que de trouver des hommes de ligne. Donc clairement, faut investir sur la ligne.
Complètement. Donc question suivante, donc de Dr Biggie. Quelle est selon vous c'est une très bonne sauce, Dr Biggie. Quelle est selon vous la meilleure escouade défensive depuis le début de saison? Alors là.
Je ne me permettrai pas de dire que d'entrer dans ce fameux débat sauce kebab qu'on a eu plus d'une fois toi et moi.
Rentrons dans ce débat-là sur la meilleure défense.
Moi, je veux commencer par dire que selon moi, il n'y a pas beaucoup de bonnes défenses cette année. Je maintiens vraiment ça. Ça m'étonne, mais beaucoup de personnes sous-entendent que les Ravens sont la meilleure défense cette année. On y reviendra, je suis pas tellement sûr de ça. Je pense, plus le temps passe, que celle de Pittsburgh est peut-être la meilleure, mais ce qui est totalement paradoxal, c'est que Pittsburgh, les Patriots, et peut-être un peu les Ravens, je les trouve excellemment bons cette année, mais c'est trois défenses qui sont, je pense, surtout pour celle des Patriots et des Steelers, moins bonnes que l'année dernière. C'est ça que je trouve ça totalement incroyable.
Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est clair. Patriots se sont fait éclater par Russell Wilson, sinon sur les trois autres matchs, c'était
qui,
vraiment
qui
solide.
Qui ne se fait pas éclater par Russell Wilson en ce moment, tu vois.
Enfin. C'est clair, c'est clair. Ouais, moi, j'ai une shortlist de quatre. Donc, j'ai les Steelers, les Patriots, les Ravens, et j'ai quand même les Bears aussi. Que je trouve toujours, ils sont pas aidés par leur attaque et ils sont quand même à 4-1, il y a peut-être une raison pour ça, quoi. Ouais. Franchement, ils sont vraiment solides, je trouve, défensivement. Les Bears. Donc, je les inclus dans la course, on va dire. Même si, pour moi, c'est les Steelers.
C'est peut-être aussi une des plus équilibrées, je pense. Enfin, il y a du talent aux trois, il y a du talent dans toutes ces défenses, attention, mais c'est peut-être celle où, aux trois niveaux de la défense, le talent est peut-être le mieux réparti. Je pense que c'est les Bears.
Et ils ont le meilleur joueur, je pense, de ces quatre équipes-là, défensivement.
TJ Watt.
Khalil Mack.
Je pense qu'il
reste meilleur que TJ Watt.
Oui, je pense. Bien sûr. Ouais, il reste meilleur que TJ Watt, ouais. Ouais.
Et
ouais.
Que Gilmore. Même si Gilmore est un des trois meilleurs corners de toute la NFL.
Ouais. D'ailleurs, qu'on voit, c'est que, et ça rejoint les deux débats qu'on a eu du côté du Texas au début, tu peux, peut-être pas pour les Steelers, peut-être pas pour les Bears, bon, bref, tu peux quand même voir que c'est des équipes qui lésinent pas sur le backfield défensif. Steelers l'ont fait à un moment, et c'est pas un hasard si c'est le moment de leur creux. Hein. Depuis, la carrière de Joe Hayden, je la comprends pas, moi. Elle a revu du côté de Pittsburgh, et il y a Eddie Jackson du côté, bien sûr, le safety star des Bears. Bref, c'est des équipes qui ont pas lésiné sur ce côté-là. Et ça va te faire plaisir, toi qui veux construire les défenses par l'arrière. Globalement, je pense que ça montre quelque chose. Ça montre peut-être une tendance plus large.
Ouais. Les Ravens et les Patriots, franchement, moi, il y a quatre corners que je peux voir sur le terrain dans la tienne et dans mon équipe et dans la tienne où je flippe pas, tu vois. Quand ces gars-là sont sur le terrain. Quatre. Quand on parlait par là tout à l'heure de ce que sortent les Texans ou les Cowboys, en starter, on voit que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et Steelers, d'ailleurs, qui a dit Joe Hayden, et puis qui ont été chercher Fitzpatrick aussi.
Ouais. Ça, oui, totalement. Oula, j'ai oublié, ouais, complètement.
Là, c'est un gros investissement parce que c'est des tours de draft, c'est comme s'il avait sélectionné au premier tour, en fait, un an après. Donc c'est énorme. Question suivante, donc de Johan Tessier à question des rookies. Alors là, c'est, est-ce qu'on va avoir du prisme Ravens dans la réponse? Nous allons voir. Vos offensive et defensive rookies of the year, avec l'accent. Ces quatre premiers matchs, on peut en rajouter un cinquième, vu qu'on a eu un cinquième match.
Alors. C'est vrai. Je m'excuse encore une fois.
pas de souci. Je commence. En attaque, j'ai Joe Burrow, mon classique. Mais si on va faire un petit peu moins classique, j'ai un duel entre donc Chase Claypool, que tu vas bientôt voir, je pense.
Ouais, j'ai pas hâte, tu vois.
Ouais. Justin Jefferson, donc l'ancien receveur de Joe Burrow, donc qui a pris la place de Diggs aux Vikings. Et je suis obligé de le mettre, Michael Onwenu, un garde, c'est toujours classe. le nouveau garde titulaire des Patriots, parce que il est juste trop fort, il passe son temps à mettre des pancakes à tout le monde, voilà.
Alors moi, je te l'ai dit, on en parlait un peu en off. J'ai du mal, en fait, de le pas le donner à Joe Burrow, parce qu'en fait, la question, c'était nos rookies offensifs de l'année et tout. Mais moi, j'ai toujours un peu du mal quand on nous demande à pas me mettre à la place d'un votant, tu vois. Et globalement, je trouve quand même que c'est un trophée qui donne l'avantage au rookie quarterback. C'est pour ça. Alors peut-être parce que la question date d'une semaine, mais il y a un nom que je suis étonné de pas avoir vu, moi.
Justin
Herbert, oui. Parce que c'est d'ailleurs le favori d'après les bookmakers aux États-Unis.
C'est vrai.
Donc,
bah, il sort de deux super matchs, franchement.
Il sort de deux super matchs. Alors, est-ce qu'il va continuer sur la même, je pense pas. On va être honnête, c'est un peu peut-être les hauts et les bas de les montagnes russes d'une saison rookie. Mais je pense qu'à l'instant, c'est le favori. Si je dois peut-être juger juste sur moi, Justin Jefferson. Parce que, on avait peur au début, on s'est dit, ah ouais, mais quand même, Stephon Diggs, c'est une grosse perte. Et on voit que Stephon Diggs est un super receveur du côté des Bills. Mais Justin Jefferson, il fait un taf incroyable dans une équipe totalement moribonde. On va y revenir. Donc, je dirais un QB. Et si c'est pas un QB, Justin Jefferson.
Ok. Et en défense, t'as qui?
En défense, je te l'ai dit avant le podcast. je suis honteux, mais j'ai envie de mettre une petite piécette peut-être sur Patrick Queen parce que, alors, peut-être que je sais pas parce que je regarde trop les Ravens, mais il fait déjà, moi, j'avais très peur parce que mettre un middle linebacker rookie dans la défense des Ravens, ça sentait un petit peu la catastrophe annoncée. Schéma très compliqué. Alors, il est un peu parfois perdu sur certaines couvertures, ce qui est bizarre parce que c'était un peu, il était vendu sur ça. Hein. Mais globalement, ouais. Il est partout. Je trouve très intéressant contre le run. Il a déjà récupéré, il fait quelques sacs. Il y en a deux, je crois. Il a récupéré quelques fumbles, tous provoqués par Marlon Humphrey, le meilleur corner NFL. Ça, c'est, je le glisse juste là. Donc, je pense que si tu vois, je fais mon homer, je le donne à Patrick Queen. Après, je pense que ça sera Chase Young.
Ouais. Je sais pareil, j'ai une course à trois. Patrick Queen, Chase Young et Antoine Winfield.
Ça, est-ce que c'est pas quoi, honnêtement, est-ce que c'est pas parce que t'adorais le mec pré-draft?
Oui, et parce que je regarde tous les matchs des Buccaneers, les gens sauront pourquoi. Je regarde tous les matchs des Buccaneers. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, toi, ça fait 5 semaines, donc, même si c'est vrai que j'essaye de regarder tout le monde, t'es influencé par ce que tu regardes le plus. C'est vrai que Winfield, bah, il est titulaire au poste de safety dans la défense des Buccaneers. Il fait des jeux. Je le trouve vraiment bon, même si je pense que, intrinsèquement, le meilleur joueur, c'est Chase Young. Il y a des périodes de Chase Young où il est déjà très très dominant. Donc c'est, ouais. Bah, on est un peu en accord, en fait, sur les choix.
Bah, c'est toujours difficile. Notre problème cette année, c'est que souvent, le rookie, je vais parler offensivement. Souvent, offensivement, ça va soit être un quarterback, je l'ai dit, soit un running back qui fait beaucoup de yards, et on n'a pas de running back, on a Clyde Edwards-Zeller qu'on n'a pas cité, mais j'ai du mal vu. Je sais pas si on le donnera à un rookie de Kansas City, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. T'as aussi le rookie de non drafté des Jaguars, le running back Robinson, il s'appelle, je crois. Mmh. Et lui, bah, il fait toute l'attaque quasiment, donc il a de très bonnes stats, mais l'équipe gagne pas. Même si rookie, il y a pas forcément de lien avec la victoire. Si tu gagnes un match, peut-être que...
Parce que Saquon là, l'année où il... Après deux matchs, c'est dur. Parce qu'ils doivent pas, ouais, en gagner vrai. Deux cette année-là. Hein, mais...
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Mais... Après, moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai du mal à ce qu'on... Je vois pas... Tu vois, si on le donne à Clyde Edwards-Helaire, ça sera uniquement sur peut-être la production, tu vois. C'est un très bon joueur. On voit que c'est un très bon rookie. Mais c'est plutôt le problème de... Beaucoup de running back aurait pu avoir la même production.
Ouais, Justin Jefferson m'impressionne plus dans son rôle aux Vikings.
Totalement, ouais.
Voilà, on est d'accord là-dessus. On passe à le moment NFC Nord. Alors là, ça va être magnifique. Hein. Avec une petite pointe au sud sur la première question. La question de Ticro, encore Ticro. Matt Patricia ou Dan Quinn? 2 points. Lequel des deux vous déçoit le plus? Comment expliquer que des coachs réputés pour être à vocation défensive, bon, Patricia, c'est pas vrai, on verra, on en reparlera, proposent des défenses aussi mauvaises, Ben?
Alors, lequel vous déçoit le plus? Bah, c'est pas le même type de déception, en fait. C'est ça qui est génial avec les deux. Bon, Dan Quinn, depuis viré.
Dan Quinn s'est fait virer. Et Thomas Dimitrov, le GM aussi. Les deux ont sauté.
Ouais, ça va complètement changer du côté d'Atlanta. Vu le début de la saison, c'est pas trop une surprise. Je dirais quand même Patrice, c'est dur de dire le plus parce que c'est pas le même, tu vois, ils ont pas le même bagage. Dan Quinn était allé à un Super Bowl et en fait, ce qui déçoit, c'est que depuis, on a l'impression que la défense ne marche plus. Il a pas réussi à renouveler une génération. Il trouve plus rien à la draft. Il a tout le temps des blessés. Là où Matt Patricia, je trouve, et on parlait d'un peu d'O'Brien, est totalement dogmatique sur son approche vis-à-vis de l'effectif, à ramener que des anciens Patriots, à avoir une à se faire un peu hein, le Belichick de Wish, et ça c'est pas possible. Enfin, je trouve vraiment que Patricia dans son genre est très antipathique. Enfin, c'est difficile d'apprécier Matt Patricia dans sa démarche là où Dan Quinn, tu vois juste que peut-être il y a eu de la malchance et il y a peut-être une fin de cycle. Je trouve Patricia beaucoup plus décevant parce qu'en plus il y a eu des investissements, il y a eu du Jeff Okuda à la draft. Bon, ça reste un rookie, on va attendre. Il y a eu du Trey Flowers, enfin bref, il y a eu beaucoup d'investissements. Cette équipe marche pas. Il y a pas de vie qui en sort, il y a rien. Donc moi je dirais plus Patricia, même si pour moi Patricia c'est un échec total sur toute la ligne.
Non, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de couteau dans le dos pour avoir mentionné les Lions dans l'équipe qui pouvait faire le saut de dernier à premier.
Non mais Alan, ça je te dis, les Lions c'est le Magic de la NFL. Tous les ans ils sont censés faire un saut.
Je sais plus. Comme tu l'as dit, les investissements pour recréer une défense des Patriots 2.0 avec Danny Shelton, Jamie Collins qui se fait éjecter pour taper un arbitre, Duron Harmon. Si Belichick lâche les joueurs au bout d'un moment, c'est peut-être que voilà, des drafts pas exceptionnels comme tu l'as dit, et surtout réputé pour être à vocation défensive. Matt Patricia, franchement, en tant que les fans de Boston, nous, moi, on l'aimait pas trop. Il a fait des game plans défensifs des fois assez hybrides, ubuesques, je dirais. Franchement, Brian Flores était bien plus. Moi, franchement, je le place derrière Flores et même derrière Joe Judge dans les candidats au poste de head coach dont j'étais sûr, on va dire.
Ah oui, c'est quand même c'est très bas, ouais.
Ouais, franchement. Parce que défensivement, je l'ai jamais trouvé exceptionnel. Franchement, les défenses de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, c'est pas la défense historique de 2018 et 2019. Et c'est des défenses qui il y avait des fois des trous. On s'est fait des fois du côté des Patriots vraiment mettre à l'amende. Je reparlerai pas du Super Bowl contre les Eagles. Il y a d'autres matchs importants qui ont été mal gérés défensivement. Moi, franchement, moi, de Patricia, j'ai jamais été très, très fan. Et comme tu as dit, et en fait, quand t'arrives dans une équipe qui sort de bonne saison avec Caldwell, et que tu fais tout péter, tu veux créer une nouvelle culture, t'es peut-être même arrogant dans ta façon d'être en disant, voilà, maintenant on va faire comme ça, on va faire la manière Patriots et tout, bah, tu ramènes des gars de chez toi dans ton effectif. C'est comment ne pas bien faire dans une équipe, j'ai l'impression, ce qu'il a fait, Matt Patricia, depuis qu'il est au, alors qu'il avait le QB, il avait des armes offensives, quelques playmakers défensifs, voilà, faut voir ce qu'a dit Darius Slay sur lui il y a quelques mois, quoi.
Mais il sous-performe, c'est scandaleux, hein.
Ouais, il sous-performe. Là où Joe Judge, bah, franchement, son équipe, elle est pas exceptionnelle. Brian Flores, je trouve qu'il surperforme par rapport à ce qu'il a lu, c'est de la sous-performe. Il a eu un bon job, Matt Patricia.
C'est ça en fait, c'est ça qui est scandaleux, qu'il ait des résultats avec un effectif. Alors l'effectif des, alors c'est pas l'effectif des Chiefs, des Ravens, des Seahawks. Enfin, c'est pas un effectif 5 étoiles celui des Lions, mais si tous les ans on les annonce peut-être comme une surprise, c'est aussi parce que sur le papier il y a des joueurs bons et il arrive pas à surperformer. La culture, on la demande toujours. Enfin, je vois pas où il y a une culture qui a été instaurée du côté des Lions. Donc en fait, c'est un échec de A à Z, et je pense clairement qu'il saute à la fin de la saison. Enfin, quand on avait reçu la question, moi je me suis demandé, c'est lequel qui va sauter en premier. Bon bah c'est Dan Quinn, mais Matt Patricia, il passe pas la saison. Enfin, c'est pas possible. Et le problème de ces coachs là, comme avec O'Brien, c'est que non seulement il t'offre pas des bons résultats, mais il te tue sur plusieurs saisons après. Parce que leur vision du foot aura fait que t'auras peut-être pris des chemins de traverse, et du coup, tu vas le payer pendant 1 ou 2 ans.
Ouais, oui, l'année X plus 1, X plus 2 pour le nouveau coach sera vraiment pas simple à gérer.
Totalement.
Vraiment pas simple. Pour Dan Quinn, se retomber dans l'analyse du comptoir que depuis ce qui s'est passé au Super Bowl.
Mais c'est vrai, tu vois. C'est une analyse de comptoir, mais c'est vrai. Enfin.
Truc, c'est sûrement cassé. Ils sont retournés une fois en playoff, c'est l'année d'après. Et un peu comme les Cowboys, en fait. Ils mettent tout sur leur draft. Et sauf l'année dernière, cette année où ils ont été chercher tous les anciens premier tour de draft, ils mettent tout sur la draft. Et tu l'avais dit, j'en ai fait un épisode avec quelques questions en juin. Et ben ils ont raté leur dernière draft en fait, sur le plan défensif surtout. Ils ont raté, les corners sont draftés réussissent pas, les pass rushers non plus. Et ben voilà, ça au bout d'un moment, ça se paye. Et surtout ça se paye quand tu joues défensivement le schéma de Seattle. Où en fait, j'ai pas l'impression que Dan Quinn s'est vraiment réinventé, et ce schéma de Seattle qui a vraiment tout défoncé dans la première partie de la décennie 2010. Maintenant, les attaques, elles savent comment l'attaquer. Donc on voit même les 49ers cette année, quand ils ont moins de talent, le schéma, on sait l'attaquer. Donc c'est compliqué.
Ouais, enfin j'ai rien à rajouter. Une équipe qui s'est trop basée sur le talent. Les Américains disent top heavy. L'équipe ouais. avait trop de très gros talents, mais pas assez de profondeur. Donc, ouais, voilà. Simplement.
Complètement. Question sur les Bears maintenant de Boogie 93. Matt Nagy est-il vraiment un coach offensif?
Alors, on a un peu répondu à cette question-là avant de commencer à enregistrer. Je t'ai posé une autre question. Est-ce qu'on peut le juger avec ce qu'il a eu comme arme? Alors, je pense que oui, quand même. Parce que si t'arrives avec l'étiquette coach offensif, tu dois pas demander à avoir Mahomes et Hopkins comme receveur. Tu vois, tu dois être quand même capable de produire, même si bon, ton QB c'est Trubisky et que c'est pas toujours facile. Je trouve que quand même Matt Nagy, c'est pour ça que j'ai dit auparavant se méfier parfois. Faut se méfier des top assistants que tout le monde veut. C'est que Nagy, depuis sa première année avec les Bears, j'ai quand même du mal à être emballé. Tu l'as dit, on a classé cette défense des Bears parmi les meilleurs de la NFL. Leur bilan actuel est quand même grandement influencé par le niveau de leur défense plutôt que leur attaque.
Et par les Lions,
toujours eux. Donc, est-ce que c'est vraiment un coach offensif? Je pense que c'est un coach moyen et en dessous de la moyenne même. Il est pas catastrophique, il va pas te ruiner ton effectif, mais on parlait de se faire surperformer, il fait pas surperformer, je pense.
Bah, c'est un coach offensif de formation déjà. Parce que il a été assistant d'Andy Reid, il a été coach des quarterbacks de mémoire, même coordinateur offensif avant que ça soit Bienemi.
Et justement, je te pose juste une question. Le destin de Nagy t'amène pas à te méfier de Bienemi? Moi, un petit peu.
Bah si, un peu. Si, clairement. Clairement. Et c'est toujours ça, on sait jamais qui fait vraiment quoi.
C'est ça, la part de l'influence d'Andy Reid sur l'appel des jeux, en fait.
Complet, qui s'occupe de quoi? Troisième tentative, jeu au sol, Bienemi à cette étiquette d'ancien running back, donc qui coordine le jeu au sol. Il y a même des coordinateurs du jeu de passe, du jeu de sol, donc c'est compliqué. Moi, je pense, comme tu as dit, que bon, il peut pas mettre en place l'attaque qui, s'il vient du schéma Andy Reid, c'est-à-dire qu'il veut jouer avec l'attaque d'Andy Reid, l'attaque qu'il y avait aux Eagles puis aux Chiefs.
C'est pas Trubisky.
Trubisky n'est même pas Alex Smith. Alex Smith c'était un bon joueur du côté des insipides, pas excitant, mais un bon quarterback du côté des Chiefs, qui les a amenés en playoff et tout. Là, en fait, avec Mahomes, ils ont juste augmenté le potentiel de destruction en fait. Mais là, en fait, il s'est retrouvé avec Trubisky en deuxième année. L'année passée, Trubisky ou Chase Daniel. Et puis là, Trubisky ou Nick Foles. Nick Foles qu'il avait eu c'est son gars, Nick Foles. Il le dit. Il l'avait eu en backup du côté des Chiefs. Donc, c'est un coach offensif. Il a quelques armes sur les extérieurs. Juste, je trouve qu'il n'arrive pas à designer un bon jeu au sol, tout simplement. Et il tente beaucoup trop de jeux gadgets. Peut-être parce qu'il n'a pas confiance en ses quarterbacks.
Et on avait vu sur la première année, on avait souvent, on avait salué ces jeux gadgets. Les jeux gadgets, ça dure un an. Enfin, quand ils sont vraiment gadgets, il faut faire la distinction entre les jeux gadgets et ce que peut appeler un McVay, un Shanahan ou un Andy Reid, voilà, vu qu'on parle de lui. Il y a, je fais le distinguo, j'espère qu'il est clair pour tout le monde.
Ouais, les motion et tout ça, c'est pas du gadget.
Oui, c'est pas du gadget, tu vois. Le gadget, c'est quand il fait lancer Tariq Cohen plusieurs fois sur cette année-là, hein, ouais. Tu vois. Enfin, c'est ça le... Il gagne un match, je crois, comme ça, aux Giants, où il fait... Enfin, tu vois, c'est ça, c'est les gadgets, vraiment.
Complètement.
Et tu te fais... Les défenses NFL se font pas avoir deux ans de suite par les jeux gadgets, donc c'est pour ça toujours se méfier. On l'a déjà dit dans cette émission des trompe-l'œil, les équipes qui passent toutes les quatrièmes, les gadgets, ça marche pas d'une année à l'autre. Donc pour répondre vraiment à la question, Nagy c'est un coach moyen, voire en dessous de la moyenne, je pense.
Pareil. Dernière question, donc sur une troisième équipe de la NFC Nord, question de The Man Cave of Ziyech, incroyable ce nom. Le futur des Minnesota Vikings. Donc, quel est, Ben, le futur des Minnesota Vikings que tu as un peu trashé tout à l'heure?
Sombre. très, très sombre. Bah, c'est une fin de cycle, en fait.
Mais ils ont été courageux. Voilà, moi, je vais juste dire ça. Après, je te laisse. Ils ont totalement dégraissé, en fait. Mm. Ils ont accepté de laisser partir Xavier Rhodes, Trey Waynes, Lidval Joseph.
Moi, je pense pas qu'il l'ait retenu vraiment, Xavier Rhodes, mais oui.
Oui, Xavier Rhodes, oui. Everson Griffin, Stephon Weatherly. Et puis, ils ont leur grosse recrue. Ne joue pas cette année, c'est Michael Pierce, l'ancien de Baltimore, je crois.
Mm-hmm.
Ouais. Et après, voilà, beaucoup de rookies, je te laisse parler. Mais pour moi, ils ont juste été courageux sur ça. Après, le reste...
Ouais, c'est pour ça que je te parlais de fin de cycle, parce qu'en fait, selon moi, ils ont, leur défense avait une particularité, c'était qu'elle était restée en place beaucoup d'années, en fait. Les joueurs que t'as cités, les Everson Griffin, les Xavier Rhodes, alors il y en a qui sont encore,
Joseph,
il y en a qui sont encore là, hein, les Harrison Smith, Michael Kendricks, ils sont toujours là. Mais, on va dire que, je pense qu'il y a un changement, c'est pour ça que j'ai parlé de nouveau cycle, parce que tu l'as dit, ils alignent beaucoup de jeunes joueurs. On a parlé de Justin Jefferson, ça c'est le bon côté. Ils avaient investi dans les corners à la draft, notamment Jeff Gladney. Tu vois qu'en fait, bah c'est pas tenable en fait. C'est pas tenable d'avoir
Dantzler qui s'est fait torpiller par Metcalf.
Oui, c'est vrai.
Pas simple de laisser un corner rookie sur Metcalf.
Surtout. Et tu vois qu'en plus, c'est là où je les ai trouvés. Bah on les a vus. C'était deux écrans pendant les finales NBA face aux Seahawks. Ils ont été extrêmement vaillants dans ce match-là. C'est limite... Je suis pas pour l'une des deux équipes, mais j'étais limite déçu qu'ils le perdent, celui-là. Mais oui, c'est en fait, c'est une équipe... Le futur des Vikings, bah, c'est malheureusement... Je pense que c'est reconstruire pendant un ou deux ans, attendre l'échéance, la fin du contrat de Kirk Cousins, et puis repartir sur un nouveau cycle. Je pense que c'est ça. Hein.
Ouais. Ouais, il a reçu une extension, Kirk Cousins.
C'est ça. En gros, s'ils veulent le couper, ils pourraient le couper dans... Pas la saison, pas à la fin de la saison là, la saison d'après. Ça pourrait être...
Dans un an.
Ouais.
Ils ont aussi donné l'extension à Dalvin Cook.
Ah.
Juste avant le début de saison.
Ah.
Je...
T'as kiffé, ça.
Non, Dalvin Cook est un top 5 running back. Je pense juste que... C'est peut-être une allocation de ressources que j'aurais pas faite, surtout quand je vois les deux running backs qu'ils ont derrière, comment ils ont bien couru contre Seattle. Je pense que ça va être hyper intéressant. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à des postes clés très vite, donc ça va être intéressant de suivre leur draft. Ça va être intéressant de suivre ce qu'ils font au poste de quarterback, parce que Zimmer, est-ce qu'il est là aussi pour rester longtemps? Je suis pas sûr. Ils ont un staff assez envieux, hein, parce que Kubiak est le coach offensif, c'est, on verra bien, mais c'est pour une équipe qui a gagné un match de playoff l'année passée, qui était en finale NFC il y a 3 ans, voilà, je pense que ils vont rater les playoffs, et puis c'était toujours une base assez forte pas exceptionnelle, mais une solide équipe. Là, je pense qu'ils vont peut-être être moins bons, en fait, tout simplement.
Zimmer, qui fait quand même partie des 10 coachs qui sont là depuis le plus longtemps en NFL. Hein. Zimmer est là depuis 2014. Hein. Et c'est pas un hasard quand on regarde les coachs qui sont là depuis en gros cette période-là. Le coach qui avait été aussi, qui est toujours en place et qui avait été aussi embauché en 2014, on en a parlé, c'est Bill O'Brien. Il est plus là. Le coach qui avait été le plus ancien recruté l'année d'après, c'est Dan Quinn. Plus là, et on a du Doug Peterson après. Enfin, en gros, on est un peu, je trouve, dans cette dans ce groupe de coachs qui a réussi, qui a peut-être pas eu la bague, qui a eu des résultats suffisants, mais là on arrive au moment où il faut changer de cycle. Donc, ouais. Donc parce que tout après les coachs qui sont là depuis vraiment très longtemps, c'est les Belichick, les Peyton, les Tomlin, ils ont les résultats et les bagues, les Harbo, les Carroll, les Reed, ils ont le bagage. Ces coachs là, c'est Brian, Zimmer, Quinn, peut-être Mike Peterson, je pense qu'il peut limite être dans cette malgré sa bague. Ouais, il peut être dans ce groupe là. Ceux-là, ils doivent peut-être avoir un cycle qui doit se renouveler dans ces équipes-là. C'est aussi parce que c'est des équipes qui ont pas su gérer l'après génération dorée en fait, un peu dans leur effectif. Donc ouais, pour revenir à ce que t'as dit, changement, ça va peut-être être 2-3 années, pas folle, mais je fais confiance n'empêche à cette équipe parce qu'ils ont prouvé dans le passé qu'ils savaient drafter. Donc
complètement.
Donc on verra. Enfin. Je pense que ouais, on entame un reconstruction. J'aime pas trop utiliser ce mot-là en NFL. On va dire renouvellement de génération, tu vois, pour pas dire reconstruction.
Ouais. Je souscris à tout ce qu'il vient de dire. Tom ATW, qu'on connaissait sous un autre nom, qui nous dit un Super Bowl Kansas City Green Bay. J'y crois chaque jour un peu plus.
Bah, c'est de plus en plus crédible. Alors j'avais dit personne ne pourrait nous empêcher de voir une finale de conf dans le dernier épisode en AFC entre Chiefs et Ravens. Je suis peut-être un petit peu revenu sur la partie Ravens, on en parlera, mais j'ai quand même du mal à voir les Chiefs. C'est toi qui le résumais le mieux en off, ils sont pas bons et ils gagnent quand même des matchs. Ce qui est pas une bonne nouvelle quand même. Donc non, je pense que les Chiefs toujours archi favoris en AFC. Et les Packers encore une fois solides. On s'est rappelé du côté de Green Bay. Eh oui, on avait Aaron Jones. Pourquoi avoir sélectionné un running back? On sait pas trop.
Au deuxième tour,
un running back des années 50, on sait pas. Et Jordan Love aussi, parce que ils ont quand même intérêt d'aller loin les Packers, parce que vu la saison qu'ils font, je pense que le front office aura du mal à justifier certains de ses choix quand tu vois que ils auraient peut-être eu besoin de contributeurs directs. Mais encore une fois, on vous renvoie. J'avais peut-être essayé un peu de défendre ce choix, mais bref. Si on devait me faire parier aujourd'hui, le jour où on enregistre, en cette fin de semaine, je parierais peut-être sur ce Super Bowl-là.
Ok. Kansas City, beaucoup de disent, ouais, je suis pas rassuré par Kansas City. Enfin, ils gagnent 4 matchs, ils battent les Ravens, les Patriots, alors qu'ils sont pas contre les Ravens, ils ont été bons offensivement, j'ai trouvé.
Contre les Ravens, en première mi-temps, ils sont incroyables.
Ouais. Contre les Patriots, je pense que si Cam Newton était là, il y avait peut-être un truc à faire. Enfin, il y a 6-3 à la fin du troisième quart-temps avec des gestions de Brian Hoyer horribles.
Un fan de Boston qui nous dit que si un joueur majeur était là, le match était différent. J'ai déjà entendu ça dans un autre sport.
Bah, si Cam Newton était là, à la place de Brian Hoyer, Ben, qui prend un sac à la fin de la deuxième mi-temps, à la fin du deuxième quart-temps, alors qu'on a plus de temps mort et qu'on peut kicker un field goal, ça aurait peut-être été différent. Mais, les Chiefs sont là. Les Chiefs sont là. Pour moi, ils seront là. Et en fait, de l'autre côté, bah, les Packers et les Seahawks, hein, pour moi, c'est les deux meilleures équipes. C'est les deux meilleures équipes. Ça pourrait faire une grosse finale de conférence. Franchement, c'est possible, ouais. C'est très possible de voir Patrick Mahomes contre Aaron Rodgers. Et ça...
D'un point de vue QB, je pense que celui-là, ou alors le Mahomes, Wilson, c'est un peu les deux dont tout le monde rêve à peu près, quoi.
Complètement. Celui-là, il ferait vendre et il serait très, très intéressant à voir. Question de Marty, l'équipe qui restera ou qui pourrait rester invaincue la saison et qui ferait saison parfaite, Super Bowl inclus. Moi, j'ai dit aucune.
Non. On aurait pu croire aux Chiefs, ils ont perdu. Donc non.
Et même dans les années futures, je dirais aucune.
Je pense que c'est... ça devient de plus en... Bah déjà, on voit ça. on a vu ça une fois. donc compliqué, mais. Avant la saison, j'aurais pas parié, mais les Chiefs auraient peut-être pu le faire. Après, pour moi, la question peut-être intéressante derrière celle-là, Alan, c'est le meilleur bilan. Qui aura le meilleur bilan des deux conférences confondues?
Seattle, je pense.
Ils ont quand même une division ultra relevée, tu vois.
Ouais, mais une division où les 49ers sont moins bons. Ouais, non, c'est dur. S'ils arrivent à faire 4-0 contre les Rams et les Cardinals...
Ouais, c'est compliqué, hein.
Ouais, c'est très compliqué. Mais ça peut pas être les Saints, ça peut être les Ravens, peut-être.
J'allais dire une équipe, mais j'ose pas le dire, parce que tu vas t'énerver. Les Bills.
Les Bills, mais les Bills ont perdu contre les Titans.
Ouais, mais ils sont quand même, parce que honnêtement, là, on enregistre des équipes invaincues, il y en a plus beaucoup, hein. Les équipes invaincues, il y a qui? Il y a Seattle.
Les Titans, les Steelers.
Les Seattle, Packers.
Et les Packers.
Il y en a quatre, hein. Seattle, je pense, peut le faire. Je vois pas les Titans avoir le... Enfin, déjà, faudrait qu'ils jouent les matchs. Ça serait quand même déjà plutôt pas mal. Les Steelers sont bons, mais je pense que c'est une équipe qui va être extrêmement dangereuse en AFC. Division est compliquée. Et je les vois pas, ne serait-ce qu'avoir le meilleur bilan AFC. Donc, je pense les Bills pourraient le faire. Les Bills ont l'avantage de pas avoir gagné la division. T'aimes bien parler des calendriers, ils ont pas gagné la division l'année dernière.
Donc. C'est vrai, mais ils vont jouer les Seahawks encore. Les Seahawks. Bon, après, ils ont déjà joué. C'est heureusement, je veux plus les revoir. Mais tu penses que les Bills peuvent avoir le meilleur bilan en...
Pour moi, ils sont dans les outsiders.
Ok.
Ils doivent être cités en fait.
Moi, je dirais les Ravens personnellement.
L'avantage de l'AFC Nord, c'est pour ça qu'il faut pas non plus totalement exclure les Steelers, c'est qu'en fait ça croise la NFC Est cette année. Oui. Donc tu peux gagner 4 matchs en fait globalement. Donc.
C'est ça.
Donc ouais, à voir. Après moi je serais étonné s'il y a une équipe ne serait-ce qu'à 14-2 cette année.
À 14, ouais. Ouais, je pense qu'on se dirige plus peut-être vers une
12-13. Ouais.
Beaucoup d'équipes en 12-4 ou 13-3.
Ouais.
Pareil. Et enfin, dernière question de Guillaume Cartier. Pourquoi vous ne passez pas à la télé?
Parce que j'ai pas le physique de l'emploi, mais Alan peut. Il l'a déjà fait sur YouTube.
Parce que on a des vies professionnelles et vies privées qui ne nous permettent pas d'être encore dans le monde de la petite lucarne. Voilà, tout simplement. Non, parce qu'on essaye de développer le podcasting.
C'est ça, on développe le podcasting en France, et autant sur de la NBA, parce que je sais que Guillaume, en l'occurrence, nous écoute sur de la NBA, sur de la NFL, j'ai beaucoup moins la prétention à être à la télévision. Ouais, déjà, sur le basket, j'ai souvent le syndrome de l'imposteur, alors sur de la NFL, je peux vous dire que je l'ai x3000, donc on va attendre un peu.
Mais merci, parce que ça doit être un compliment caché quand même, donc ça
nous fait très plaisir. Oui, je pense même pas caché, je pense que c'est un vrai compliment. Ouais.
Donc merci beaucoup, ça nous fait très plaisir.
Ça nous fait extrêmement plaisir. Mais on a déjà vu Alan sur YouTube, hein, donc pour moi c'est un peu comme c'est la télé du 21e siècle. Donc
C'est vrai, c'est pas faux, c'est le digital, comme dirait notre ami Adrien.
Qu'on salue. Ouais.
Du pote. On a fini pour cette semaine, on va se retrouver dans 2 semaines, je pense.
Mm-hmm.
On verra ce qui se passe du côté de la NFL. Franchement, on avait peur qu'il y ait pas. Alors il y a tous les imbroglios là. Je sais pas. Il y a encore eu des tests positifs du côté d'Atlanta. Là,
ah, mais je sais pas dans quel état on va être quand on va retrouver les gens dans 2 semaines. Hein. Parce qu'il y a un moment où tu pourras plus décaler les matchs en jouant sur les.
Les Chargers ont eu 4 matchs décalés alors qu'ils ont pas de cas de Covid.
C'est
pour les agencer les calendriers.
C'est pour ça que beaucoup de voix s'élèvent aux États-Unis pour décaler le Super Bowl déjà.
Et il y a l'idée de bulle aussi qui est sortie. L'idée de bulle pour les playoffs. Selon The Athletic.
Ça va être compliqué. Parce qu'on est en train de le voir dans tous les sports. Hein. La bulle semble être, on n'est pas médecin, hein, mais la bulle semble quand même être plus ou moins le seul moyen de...
La solution.
De la solution, quoi. Donc,
C'est compliqué. On verra si tous les matchs sont joués déjà. On verra si... C'est bizarre d'avoir des matchs le mardi, d'avoir 2 matchs le lundi. Il n'y a pas de match le jeudi. C'est peut-être mieux, hein, c'est cette semaine.
Mais tu te rappelles quand on avait parlé de ça à l'intersaison, je t'avais parlé d'un médecin sur YouTube qui avait dit qu'il fallait, de toute façon, il fallait se faire sauter le match du jeudi. Parce qu'il posait plus de problèmes que de raisons.
Là, il l'a sauté. Il a sauté cette semaine. Donc, à voir, mais c'est bizarre. Au moment, on a du foot. et on peut en parler, et on a des dimanches où on peut regarder du foot US, c'est le principal. Bah on va se quitter, Ben. Merci, merci beaucoup. Je te rends la présentation pour le prochain épisode. Sachant que on est tous les deux extrêmement malades en ce moment.
C'est vrai.
On tient, genre, les nuits sont courtes avec le basket, la NFL et tout, mais on voulait faire cet épisode. On va essayer de le balancer avant le week-end. Et puis, bon week-end NFL à tous. Et on se retrouve très vite. Salut.
Salut.